Super, on vient de gagner un nouveau contrat. Va falloir s'équiper de nouveaux ordi.
Direction Dell.fr. Tiens, regarde, 50% sur l'achat d'un deuxième ordinateur pro.
Génial.
Et pendant le mois de juin, Dell.fr t'offre la livraison.
Top Dell.fr. Au fait, j'y pense, ma fille cherche un PC tactile.
L'XPS 12, PC et tablette.
Et pour mon père, il propose quoi ton Dell.fr?
Jusqu'à 100 euros de réduction sur une sélection de PC. T'en prendras aussi un portable mère?
Ou pas.
Voir modalité sur Dell.fr.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Alors si j'annonce qu'aujourd'hui Franck Ferrand reçoit Cambacérès, je suis sûre que certains d'entre vous ne seront même pas surpris. Après tout, il a bien reçu à ce micro dans le passé un certain monsieur Talleyrand.
Mais tout est possible dans cette émission.
Exactement. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Ce n'est pas le duc de Parme, archi-chancelier de l'Empire, que je reçois, mais un de ses descendants, l'ancien député Jean-Marie Cambacérès, grand connaisseur de l'Asie, qui a épousé la petite fille de Norodom Sihanouk. Il vient de publier un ouvrage sur ce personnage fascinant, Sihanouk, grand bonhomme du XXe siècle, décédé très récemment, le 15 octobre dernier.
Nous allons donc, une fois n'est pas coutume, parler de temps très récents aujourd'hui.
Eh oui, des temps récents, mais qui ne nous ramèneront pas moins au cœur de l'histoire. Et quelle histoire ? Celle du Cambodge, de cet immémorial empire khmer tellement malmené au cours du dernier demi-siècle.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Le charisme du personnage était remarquable. Il avait une présence, un feu, une finesse parfois, souvent un sens du propos surprenant et inattendu. Pour tout dire, il avait un maniement de la langue française qui faisait l'admiration des auditeurs et qui, tout ça a fait de lui, très longtemps, un excellent intervenant à la télé et à la radio. De sorte que nous autres Français, nous avons fini par nous habituer aux apparitions du roi ou du prince en exil ou du chef de l'État ou du premier ministre Sihanouk selon la période à laquelle on fait référence. Des apparitions bien plus rares en vérité, et j'ai découvert ça en préparant cette émission, que ne le laisserait penser le souvenir qu'on a pu en garder. J'avais le sentiment, moi, que Norodom Sihanouk avait littéralement envahi les écrans pendant toute mon enfance. C'est l'image que j'avais. En fait, quand on fait la liste de ses interventions, elles sont somme toute relativement rares. Avant d'entrer dans le détail de la vie de ce personnage, mort il y a donc 8 mois, j'aimerais replacer son destin dans la continuité d'une très longue et très brillante histoire. Il y a un siècle, le Cambodge était, vous savez, avec le Tonkin, la Nam, la Cochinchine et le Laos, une des 5 parties de l'Indochine française. Ce Cambodge avait été conquis par la France en 2 fois, en 2 morceaux, d'abord en 1863 et puis en 1904. Or, ce Cambodge est un très vieux pays, à la culture brillantissime. C'est l'héritier du vieil empire Khmer, institué dès le 9e siècle. La capitale de cette civilisation, le fruit de son apogée, c'est évidemment Angkor et son célèbre temple d'Angkor Wat, avec notamment les fastueux bas-reliefs que tout le monde connaît. Comment ne pas citer ici André Malraux et La Voix royale, merveilleux roman qui a d'ailleurs fait polémique, mais nous n'allons pas entrer aujourd'hui dans cette polémique-là. La jungle cambodgienne vue par Malraux devient une sorte d'éreb propice aux angoisses. Je cite, l'unité de la forêt maintenant s'imposait. Depuis 6 jours, Claude avait renoncé à séparer les êtres et les formes, la vie qui bouge de la vie qui suinte. Une puissance inconnue liait aux arbres les fongosités, faisait grouiller toutes ces choses provisoires sur un sol semblable à l'écume des marais, dans ces bois fumants de commencement du monde. Quel acte humain, ici, avait un sens? Quelle volonté conservait sa force? Tout se ramifiait, s'amollissait, s'efforçait de s'accorder à ce monde ignoble et attirant à la fois, comme le regard des idiots et qui attaquait les nerfs avec la même puissance abjecte que ces araignées suspendues entre les branches dont il avait d'abord eu tant de peine à détourner les yeux.
De l'album musique Khmer Royales et Populaires, interprété par les musiciens de la cour de Norodom Sihanouk Lao.
Alors, je n'ai nulle compétence, autant vous le dire, pour évoquer l'histoire du Cambodge. Je n'y connais vraiment pas grand-chose, mais il y a des spécialistes, heureusement, à mes côtés dans ce studio, et notamment le grand reporter Bruno Carrette, qui a réalisé plusieurs films sur le pays. Je lui disais juste avant que ne commence cette émission que je m'étais couché tard en regardant ces films très durs et magnifiques sur notamment l'expérience Khmer. Alors, on va y venir, hein, on parlera de tout ça vers la fin de l'émission. Avant cela, il faut peut-être que nous resituions effectivement Norodom Sihanouk dans un pays qui, au départ, avait, quand je dis au départ, on est sous le Second Empire, on est en 1863, avait réclamé le protectorat de Napoléon III.
C'était le grand-père de Sihanouk, le roi Norodom, qui avait demandé ce protectorat parce que le Cambodge faisait face depuis des siècles à un mouvement de balanciers entre ses grands voisins qu'il craignait énormément, le Siam et la Nam à l'époque, qui sont devenus l'actuel Vietnam et la Thaïlande. Donc les Français
voisins
étaient
du
déjà
sud
en Cochinchine.
Les voisins de l'est en fait, hein, qui alternativement étaient
est-ouest. Voilà. Et l'Empire Khmer s'était réduit pendant ces siècles, depuis la chute d'Angkor au XIVe siècle, à peau de chagrin, parce que un coup les Siamois aidaient les Cambodgiens à se défendre de l'appétit annamite. La fois d'après, c'était les annamites qui aidaient les Cambodgiens à se défendre des appétits Siam. Et à chaque fois, ils prenaient du territoire. Voilà, donc c'était plus possible à gérer. Les Français étant en Cochinchine, n'étaient pas très intéressés.
Dans le sud.
Le sud du Vietnam. Là où est aujourd'hui Saïgon. Les Français étant là, n'étaient pas très intéressés par le Cambodge. Mais cette proposition de Norodom leur faisait entrevoir la possibilité d'explorer le Mékong. Et notamment avec Doudard de Lagrée, ils ont essayé de remonter pour voir s'il y avait des voies commerciales fluviales exploitables jusqu'à la Chine.
Voilà. Alors, peu à peu, évidemment, le Cambodge est intégré dans ce grand ensemble indochinois, toujours avec quand même sa personnalité, toujours très à part. On a l'impression, par rapport, effectivement, au Vietnam, ce que le futur Vietnam, qui présente une certaine unité, est directement administré par la France. On a l'impression que le Cambodge bénéficie, non pas d'une autonomie, mais d'une relative distance.
C'est un protectorat, contrairement au Vietnam, où le Tonkin, la Cochinchine, sont des colonies. C'est un protectorat qui est établi au Cambodge en 1863.
Alors évidemment, au moment de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais arrivent, hein, comme dans toute cette partie de l'Extrême-Orient, et ils prennent le pouvoir au Cambodge, bien entendu.
Oui, ils font un coup de force, je crois que c'est au mois de mars 45, et ils demandent à la France de leur rendre le pouvoir sur le Cambodge. Et c'est là peut-être que Sihanouk a été intelligent.
Alors c'est notre Sihanouk, hein, parce qu'il se trouve que depuis 3 ans, la France a mis sur le trône, a installé comme roi du Cambodge ce tout jeune homme, qui est donc Norodom Sihanouk.
Voilà, en 41, il a 19 ans, c'est plutôt, comme il se définit lui-même, un playboy, musicien, qui fait du saxophone, et qui aime bien faire la fête. Et les Français pensaient que de mettre ce jeune homme sur le trône, ça faciliterait le travail, qu'il n'y aurait pas beaucoup d'opposition, et c'est pour ça qu'ils ont fait son choix. Mais ça a exacerbé une rivalité entre les deux branches de la famille royale, qui sont les Sisovat et les Norodom. Normalement, à la mort du roi Monivong, le prince Monirette, Sisovat Monirette, aurait dû monter sur le trône. Mais les Français lui ont préféré Sihanouk, et voilà comment ça s'est passé.
Ils pensaient qu'avec Sihanouk, tout serait facile. Eh bien, nous allons voir dans un instant, puisque le récit a lieu tout de suite, nous allons voir qu'ils se trompaient.
Europe 1. Aujourd'hui, Elena et ses experts vous donnent rendez-vous aux Planètes PME. C'est le salon des PME et des dirigeants d'entreprises en direct du Palais des Congrès, Porte Maillot, à Paris. Ils vous délivreront toutes les astuces dont vous avez besoin pour créer votre entreprise, et ce, dès 14h. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions comme tous les jours, à nous appeler au standard Europe 1, c'est le 3921, 34 centimes d'euros la minute.
Le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck qui revient maintenant sur Europe 1, sur la vie de Norodom Sihanouk.
Oui, c'est pour des raisons de clarté que j'ai choisi de placer le récit, une fois n'est pas coutume, au début de cette émission, pour que nos auditeurs ne se perdent pas trop dans les méandres de cette histoire cambodgienne. Je vais essayer de vous résumer à grands traits l'invraisemblable destinée de Norodom Sihanouk, et puis ensuite, avec mes invités, nous reviendrons sur chacun des points beaucoup plus en détail, évidemment. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, nous le disions, il n'a que 18 ans, on est en 41, Norodom Sihanouk est choisi par les autorités françaises pour ceindre la couronne d'or d'Angkor. Il devient donc le roi du Cambodge. Les Français, nous venons de le dire, essaient de voir en ce jeune homme un souverain fantoche, une sorte de Baodai du Cambodge en quelque sorte. Mais sous ses dehors désinvoltes, c'est un jeune monarque intelligent, souple, qui très vite va jouir d'une énorme popularité qui va savoir s'en servir. Il sait jouer notamment des craintes françaises envers le communisme en pleine expansion et dès 1953, il quitte Phnom Penh pour Angkor, acte symbolique et fondateur. Il se lance dans une sorte de croisade pour l'indépendance, une croisade qui le mène à Paris et ça va se révéler un triomphe cette affaire. Sihanouk obtient pacifiquement l'émancipation de son pays et il y rentre nimbé, auréolé d'une gloire toute neuve. Il est le père de l'indépendance. Alors, on est en pleine période du mouvement des non-alignés, vous savez. Et Sihanouk a l'idée de l'habileté, disons-le, de se laisser courtiser par les grands de ce mouvement, par Nehru, par Sukarno, même par Chou En Lai, qui n'est pas tout à fait, lui, partie prenante. C'est muni de ses puissants soutiens que Sihanouk a l'idée de faire... Il va abdiquer en faveur de son père afin d'avoir lui-même les mains libres pour gouverner pleinement. Il va prendre les rênes du pays. Il faut imaginer ce que sont les élections de 1955. Hein. Son parti, il n'y a pas d'opposition, quasiment pas. Son parti est omniprésent. Certains disent qu'il a même fait régner la terreur. C'est peut-être le prix à payer pour ce qu'on appellera l'âge d'or du Cambodge. Le pays, à ce moment-là, connaît une période de paix, de prospérité. Il est en plein développement industriel, mais aussi social. Sihanouk accepte pour financer toutes sortes d'infrastructures l'aide des Américains aussi bien que des Français, mais aussi des Chinois et des Soviétiques. À la mort de son père en 1960... il prend le titre de chef de l'État et on peut dire qu'il est aussi présent et actif dans la diplomatie, car c'est un diplomate né, nous allons y revenir, que dans les affaires intérieures où il reste constamment proche du peuple avec toutes sortes d'institutions. On va y revenir tout à l'heure, c'est important aussi. Mais cette harmonie apparente se paie, disons-le, au prix d'une très grande fermeté envers tout ce qui pourrait apparaître comme un noyau d'opposition. Et nous gardons, nous, Français, à l'esprit les fameuses exécutions filmées de condamnés présentés le plus souvent comme des traîtres à la solde de l'Amérique. Ça aussi, il va falloir y revenir. Il faut dire qu'avec le début de la guerre du Vietnam, le chef de l'État a pris ses distances à l'égard de Washington. Il s'accroche désespérément à cet idéal de neutralité. Il n'a pas tellement le choix, hein. C'est la ligne d'un petit État vulnérable à ses grands voisins. Non sans machiavélisme, Norodom Sihanouk va autoriser les Nord-Vietnamiens à utiliser une partie de plus en plus grande de son territoire vers le nord et il ira jusqu'à monnayer, pour compenser en partie le manque à gagner de la manne américaine, jusqu'à monnayer un droit de passage sur ces terrains aux Chinois et aux Soviétiques. En un mot, Sihanouk commence là à jouer un jeu très dangereux. Au milieu des années 60, le pays est donc en partie occupé par les Nord-Vietnamiens, l'économie vacille, la corruption s'installe, le régime multiplie les opérations de propagande, de mise en scène. Il faut imaginer ce qu'a été la personnalisation du pouvoir de Norodom Sihanouk. Il se présente, lui, comme une sorte de recours, si vous voulez. Alors, il ne sait plus trop à quel sens vouer. Vous avez compris à quel point la situation, la conjoncture internationale et la guerre rendent les choses périlleuses. Alors, il va se tourner vers Pékin. Seulement, le soutien de Mao au communiste cambodgien Pol Pot, notamment aux rebelles communistes, inquiète beaucoup Sihanouk. Alors, on est là dans les années en 66, il va se tourner vers la France. Le général de Gaulle, il faut le savoir, jouit d'un très grand prestige au Cambodge. Sihanouk est un peu à bout d'arguments, alors il va essayer d'en tirer des fruits. Il reçoit le général avec un luxe de moyens. Vous vous rappelez cette grande voyage officiel en septembre 1966. Ça va être pour de Gaulle l'occasion de prononcer son célèbre discours de Phnom Penh qu'on nous fait apprendre à l'école, en classe de terminale si je ne m'abuse. Ce discours de Phnom Penh qui est une grosse pierre dans le jardin des Américains. Mais le recours à cette France gaullienne n'apporte pas grand-chose à l'ancien protectorat. Sihanouk s'est, si je puis dire, laissé doubler sur sa droite depuis longtemps par le général Lon Nol, qu'il doit accepter comme Premier ministre. Le pays est à feu et à sang, il est agité par des révoltes, notamment une d'importantes révoltes paysannes. C'est le soulèvement notamment de Somlot qui va être noyé dans le sang. Sihanouk tente un ultime rapprochement avec les États-Unis. On est là dans les années 67-68. On le voit même accueillir la veuve de l'ancien président américain Kennedy. Il est dans le double jeu, ce personnage. Il demande secrètement aux Américains d'aller bombarder dans le nord du Cambodge les positions vietnamiennes qu'il avait lui-même naguère autorisées secrètement, tout en dénonçant officiellement, avec beaucoup d'éclat, cette ingérence étrangère. Les jeux sont de plus en plus dangereux. En décembre 69, il ne contrôle plus rien. Il se voit contraint, sans démissionner pour autant tout de suite de sa position de chef de l'État, de quitter Phnom Penh. Oui, il se réfugie en France, à ce moment-là, dans sa villa de Mougins.
De la bande originale du film de Régis Varnier, sorti en 92, Indochine.
Pendant l'absence de Norodom Sihanouk, Lon Nol, va profiter de la situation. Il le fait voter par les députés qui n'ont pas le choix. Il y a beaucoup de militaires autour du Parlement. La destitution de Norodom Sihanouk, on est là en mars 70. Autant dire que ce que Sihanouk avait voulu éviter arrive. Le Cambodge se laisse entraîner par les Américains dans la guerre du Vietnam. Et à ce moment-là, Sihanouk va épouser la cause adverse. Il avait déjà demandé le soutien de Moscou et de Pékin. Eh bien, il se réfugie à Pékin. Il signe un pacte avec ses communistes Khmer, opposés à Lon Nol, qu'il avait lui-même taxé de Khmer Rouge, c'est l'origine du nom, et c'est le début de la guerre civile. Partout dans le Cambodge circulent à ce moment-là des bandes magnétiques où l'on entend l'ancien roi, l'ancien chef de l'État, pester contre celui qu'il appelle ce fasciste Lon Nol. Et voilà comment celui qui n'est plus le roi mais le prince Norodom Sihanouk se laisse entraîner dans la spirale de la reconquête communiste de son pays. Il est accueilli dans les zones reprises, je vais un peu vite hein, évidemment, mais le but est de vous raconter l'ensemble de l'histoire. Il est accueilli à plusieurs reprises par Pol Pot, qui en vérité jalouse sa popularité, mais qui sait se servir de lui pour galvaniser les foules. Sihanouk, ancien grand marionnettiste, est en quelque sorte devenu la marionnette de ce qui à partir de 75 va devenir le régime Khmer Rouge. Ce régime qui rebaptise le pays Kampuchéa démocratique, le nomme chef de l'État, mais au bout de quelques semaines, il en devient l'otage, il est assigné à résidence, il va être invisible pendant 3 ans, on l'emmène de temps en temps dans des espèces d'inspections sur des grands chantiers du régime. Il va déclarer plus tard avoir été en quelque sorte le prisonnier de Pol Pot, et il est vrai que sa famille a beaucoup souffert, on va en parler, comme la masse des Cambodgiens, évidemment nous consacrerons la fin de l'émission à cette épouvante. Il n'empêche, en 1969, quand les Vietnamiens reprennent la capitale et mettent fin au délire sanguinaire des Khmer Rouges, qui Pol Pot envoie-t-il à Pékin, puis à New York pour condamner l'invasion vietnamienne à la tribune des Nations Unies? Norodom Sihanouk. Et l'on n'entend pas le chef de l'État prononcer des regrets pour les quantités, les foules de Cambodgiens victimes de Pol Pot et de ses acolytes. Finalement, c'est en Corée du Nord que Norodom Sihanouk trouve à présent refuge, avouez que ça ne s'invente pas, chez son grand ami Kim Il-sung. Le prince demeure néanmoins un homme lucide. Il est totalement accablé par la situation. C'est à ce moment-là qu'il donne pas mal d'interviews. Il se déclare hors-jeu sans cesser de faire son possible pour aider à sa façon le Cambodge avec lequel il a fini par s'identifier. « Le Cambodge, c'est moi », dira-t-il souvent dans les micros qu'on lui tend. À la tête de son propre mouvement de résistance, le vieux politique reprend du service. Il va parvenir même à faire la paix avec celui dont les Vietnamiens ont fait l'homme fort de Phnom Penh, Hun Sen. Naïveté ou impuissance, voici Norodom Sihanouk de nouveau instrumentalisé par ce nouveau régime. Il va falloir attendre 1991 et les accords de paix, les accords de Paris, pour qu'il rentre définitivement au pays, et 93 pour qu'il remonte sur ce trône qu'il avait volontairement quitté 33 ans plus tôt. Il règne, mais ce n'est plus lui qui gouverne, c'est Hun Sen. Sihanouk est malade, il est atteint d'un lymphome, il abdiquera en 2004 en faveur d'un de ses fils et il passera les 8 dernières années de sa vie entre la Corée du Nord et surtout la Chine, où il est soigné. C'est d'ailleurs à Pékin qu'il est donc mort en octobre dernier. Il y a quelques semaines, ses cendres ont été rapatriées en grande pompe au Cambodge. Alors, Voilà pour cette destinée résumée à très grands traits. Nous allons y revenir évidemment point par point. Cette biographie, nous allons la reprendre en compagnie de mes invités Jean-Marie Cambacérès, qui, si je puis dire, défend la mémoire de Norodom Sihanouk, le père François Ponchaud, qui est nettement plus sévère, nous allons l'entendre. Je voudrais, à titre de préambule, me livrer, puisque j'ai une minute pour le faire, un petit exercice. Si l'on résume encore certains des paragraphes que je viens de vous lire, ça donne ceci. Voilà un jeune monarque intelligent, populaire, qui a su obtenir sans coup férir l'indépendance de son pays et qui, grâce à sa neutralité, pardon, de non-aligné, a fait pleuvoir des montagnes d'argent sur un pays qui l'a rendu prospère. Il a refusé de céder aux Américains, puis aux Chinois. Fidèle à l'exemple du général de Gaulle, il a tenu les rênes jusqu'à ce que les factions coalisées ne l'expulsent. Alors, pour rétablir la souveraineté, il s'est allié avec des rebelles dont il n'avait pu imaginer le caractère monstrueux. Il aura été leur otage et, d'une certaine façon, leur victime. Opposé aux Vietnamiens tant qu'ils occupaient le pays, il a surmonté néanmoins ses réticences pour aller s'allier avec eux dès qu'il a été possible de restaurer les institutions souveraines. Et loin de profiter pour lui-même de la paix revenue, il s'est contenté de remonter sur le trône comme garant d'un retour à la normale. On peut dire cela. Mais en mettant d'autres aspects de ce que je viens de vous dire en évidence, on peut aussi dire ceci. Rusé, ce jeune agent de la France s'est retourné contre la métropole pour obtenir l'indépendance et asseoir son pouvoir, au besoin par la force. Autoritaire, imprévisible, Sihanouk s'est servi du mouvement non aligné pour manger à tous les râteliers jusqu'à ce que les Américains lui demandent la réciproque, ce qu'il leur a refusé. Il a secrètement loué une part de son territoire aux Nord-Vietnamiens tout en dénonçant officiellement leurs incursions, puis a secrètement demandé contre eux l'appui des Américains tout en dénonçant officiellement leur bombardement. Il a ensuite pris la tête de la rébellion contre ce qu'il restait du Cambodge. Quitte à ce que le peuple soit encore plus écrasé, il a copiné avec Mao, pactisé avec ses Khmers rouges dont il était bien placé pour connaître pourtant le caractère incontrôlable. Allié passif de Pol Pot, il sera même son interprète involontaire à la fin de l'expérience. Il passera ensuite 15 années à négocier dans l'ombre tous azimuts pour finalement se laisser dépasser par cet homme Hun Sen qu'il avait sous-estimé, comme il sous-estimait du reste presque tout le monde. Ces deux résumés, ces deux portraits sont certes très partiaux l'un et l'autre, mais ils pourraient être défendus. Quant à la vérité, elle n'est peut-être pas au milieu, comme on le dit souvent à tort, mais dans l'addition des deux. Norodom Sihanouk n'a peut-être pas été ceci ou cela, mais bien plutôt ceci et cela.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Avec nous aujourd'hui sur Europe 1, Jean-Marie Cambacérès, président de l'association France-Asie, auteur de Sihanouk, le roi insubmersible au Cherche Midi. François Ponchaud, vous l'avez dit, Franck est prêtre des missions étrangères. Il vit au Cambodge depuis 1965. Et puis, le journaliste et grand reporter Bruno Carrette.
Bonjour messieurs, donc nous avons entendu déjà Bruno Carrette. Vous venez de consacrer, Jean-Marie Cambacérès, un ouvrage assez épais à ce personnage très difficile à cerner. Moi j'ai toujours été assez fasciné, hein, je vous l'avoue, par la personnalité de Sihanouk, qui est très imprévisible. Il pouvait être à la fois d'une douceur, d'une finesse extrême, citant nos plus grands poètes, et puis d'un seul coup avoir une déclaration totalement inattendue. Bon, vous le présentez comme un personnage, si je puis dire, avant tout tenace.
Oui, je crois que les deux visages que vous aviez éventuellement brossés tout à l'heure pourraient être même plus nombreux que
oui,
cela. Parce que il y a des gens qui étaient de gauche, communistes, etc., et qui ont une vision de l'histoire du Cambodge. Il y a des gens qui étaient républicains et pro-nationalistes qui en ont une autre. Il y a des gens qui étaient avec Sihanouk qui en ont une troisième et beaucoup d'autres. C'est très compliqué. Simplement, ce qu'il faut retenir pour l'histoire du Cambodge, c'est qu'il y a l'environnement aussi. Souvent, ça influence beaucoup le sort des hommes. Et il y avait premièrement bon, les mouvements d'indépendance, notamment qui ont touché la France en Afrique et puis en Indochine. Il y avait la guerre d'Indochine et la guerre du Vietnam aussi, après avec les Américains. Il y avait la rupture sino-soviétique qui ont fait affronter les deux communismes. Il y avait le partage du monde entre les pays de l'Est et les Américains. Et c'est tout ça qui a fait que Sihanouk, dans toute sa vie quand même, qui est extraordinaire, parce qu'il a été à 18 ans, il est mort à 90 ans. C'est très très rare pour un roi ou un chef d'État d'être revenu. Si vous regardez l'histoire de l'Union soviétique, de la Chine ou des pays de l'Est où il y avait des monarchies, aucun n'est revenu. Lui était roi, il a terminé sa vie roi, on peut dire, dans la mesure où...
On va revenir évidemment tout à l'heure sur les circonstances et sur ces grands événements historiques, oui, dont vous parlez, qui ont pesé si fort sur le destin du Cambodge en général et de Sihanouk en particulier. Avant ça, il faut, comme vous nous disiez, que vous l'avez bien connu.
Oui,
vous,
oui, alors justement, je voulais arriver à lui, Parce que moi, bon, je ne suis pas un spécialiste du Cambodge, je suis un généraliste parce que je connais bien tous les pays d'Asie, mais par contre, je l'ai bien connu. Voilà. Donc, j'ai essayé, et sans le connaître avant à l'époque, j'ai souvent été complètement d'accord avec tout ce qu'il faisait, même quand j'étais très très jeune. Parce que je me mettais à sa place, parce que je pensais à l'indépendance du Cambodge, parce que je pensais à ceci, à cela, et parce qu'on n'analyse pas ce qui s'est passé il y a 30 ans avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais effectivement, je l'ai bien connu, puisque comme vous le disiez, bon, j'ai épousé une de ses petites filles avec laquelle j'ai divorcé après. Et effectivement, il avait les deux problèmes. D'abord, c'était un grand francophone et francophile, donc il connaissait toute la littérature française, c'était un musicien, c'était un cinéaste, c'était un homme de culture. Mais il faut pas oublier que si on arrive à survivre à tout ce qui s'est passé, les Khmer Rouges, l'occupation vietnamienne, les guerres, la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais, c'est qu'on n'est pas un enfant de cœur non plus. Donc, il faut pas s'étonner qu'au moment de l'histoire difficile, on ait eu un Sihanouk dur. Oui. Mais au-delà de tout cela, moi, je crois qu'il y avait, j'en terminerai par là pour pas monopoliser la parole, je crois qu'il y avait deux choses. Premièrement, vous l'avez dit, il s'était identifié au Cambodge. Je crois que ça, c'est une des phases de sa personnalité, c'est que le Cambodge, c'était lui. Un peu comme le général de Gaulle qui disait à Churchill, la France, c'est moi. Non, de Gaulle, vous n'êtes pas la France. Mais Sihanouk, et moi, je suis... Je pense que c'est ça. Parce qu'il y a une période...
Il se vivait un peu comme un De Gaulle du Cambodge.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, son appel de Phnom Penh, il disait que c'était son appel du 18 juin. Il s'incarnait à l'étranger. L'alliance avec les communistes, dont on ne savait pas qu'ils feraient ce qu'ils ont fait, c'était De Gaulle pendant la résistance, allié avec les communistes aussi. Donc c'est vrai qu'il avait cette logique-là, un peu. Mais c'est vrai qu'aussi, tous les gens qu'il voyait pendant son exil à l'étranger, c'était plus important pour l'avenir du Cambodge que ce qui se passait à l'intérieur.
Et ça, c'est la dimension diplomatique, évidemment, du personnage. Vous vivez, François Ponchaud, au Cambodge depuis 1965.
48 ans.
Ça donne un certain recul pour apprécier les choses et les voir, si je puis dire, d'en bas, au milieu de la population cambodgienne. Quelle est l'image qu'a laissée le roi, prince, chef de l'État, Norodom Sihanouk, au Cambodge ?
Eh bien, le roi, il faut savoir que le roi est de roi de droit divin. Et c'est lui le maître de l'eau et de la terre. C'est lui le maître du Cambodge. Donc, il peut s'identifier au Cambodge, car le Cambodge, il en est le propriétaire. Et même sur un point de vue très pratique, les terres appartenaient à la couronne. Les paysans en étaient seulement les usufruitiers. Et d'autre part, ça explique un peu les massacres des Khmers Rouges, il était maître de la vie. Quand on parlait de la mort de ses sujets, quand on s'adressait à Sihanouk, on lui disait « Votre esclave de son auguste majesté sous la poussière la plus fine de vos augustes pieds qui est le maître de la vie sur notre tête ». C'est tout cela pour dire « je ». Mais c'est significatif d'une mentalité.
Et Héritier de la nuit des temps. Là, pour
exactement, le coup, hein. Oui. Héritier des temps d'encore. Oui. Et il ne faudra pas s'étonner qu'ensuite Le Nol, puis Pol Pot, puis actuellement Hun Sen, ont la même philosophie du pouvoir. Alors si on veut comprendre le roi Sihanouk, il faut d'abord penser que c'est un Khmer qui n'a pas la même façon de penser que nous, qui a une grande civilisation, une grande culture, une religion qui est complexe et qui nous dérouteront toujours. Les Khmers nous dérouteront toujours, même maintenant, après 48 ans de présence parmi eux, je suis souvent dérouté. Donc il ne faudra pas s'étonner que Sihanouk est Khmer et qu'il continue à nous dérouter. C'est choix. Alors à la fois un homme très bon, et puis à la fois qui peut être très cruel.
Très dur,
car
oui.
Par exemple en 62 et 63, il a exécuté un très grand nombre de Khmers rouges. Et moi-même, j'allais au cinéma un peu plus tard, en 65. Eh bien, avant chaque séance de cinéma, on devait se mettre au garde-à-vous et assister à l'exécution d'un pauvre homme qui s'appelait Priep Un. On le voyait arriver entre deux soldats, puis attaché au poteau, exécuté, et l'officier lui donnait le coup de grâce. On nous épargnait aucun détail. Et ça, c'est Khmer. C'était Sihanouk à la fois très bon et puis à la fois extrêmement cruel. Sihanouk, si on veut comprendre aussi le prince Sihanouk, c'est un patriote. Et ça, j'en suis profondément convaincu parce que le Cambodge lui appartient. Donc, il défend son bien. Et tous ses choix s'inscrivent dans cette direction. Patriote, contre les Américains, notamment, qui ne respectaient pas, contre le Sud-Vietnam, et puis ensuite, contre l'Union soviétique.
Maintenant que nous avons une idée nettement plus claire du personnage lui-même, nous allons voir quelles ont été ses réactions aux différents coups du destin qui ont frappé le Cambodge.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nous parlons aujourd'hui sur Europe 1 d'un personnage important du XXe siècle, Norodom Sihanouk, l'incarnation du Cambodge pour le meilleur et, vous l'avez compris, pour le pire.
Alors avant évidemment d'entrer dans le détail de la guerre du Vietnam et de tous les bouleversements qu'elle a engendrés, et puis également de l'évolution de l'alliance sino-soviétique, j'aimerais qu'on précise qu'à partir de très grande dureté, on a un régime sévère, en même temps se développe une prospérité, une industrialisation. Il y a cet aspect âge d'or qu'il ne faut pas oublier, Bruno Carette, qui va d'ailleurs servir à Norodom Sihanouk pendant toute sa vie. Il incarne ça.
Eh bien oui, puis il a une grande vision de son pays. Il est le descendant des glorieux ancêtres d'Angkor et donc il a une vision pour son pays. Il se relève les manches. Enfin, le pays est indépendant. De façon un peu mégalomaniaque, on peut dire. Alors, il développe raisonnablement dans un premier temps, il construit des routes, des écoles, des hôpitaux, avec l'aide d'ailleurs de l'étranger, un coup les Américains, un coup les Chinois.
Alors justement, quand les Américains vont demander en quelque sorte que Sihanouk s'aligne et entre à leur côté dans la guerre du Vietnam, là il dit non. En fait, il n'en est pas question pour lui, Jean-Marie Cabassérès.
Oui, parce que, si vous voulez, c'est un petit pays. On parlait tout à l'heure du grand-père, le roi Norodom, qui avait appelé Napoléon III. C'est un petit pays dont il avait tout à fait confiance que s'il rentrait dans la logique de la guerre entre l'Est et l'Ouest, parce qu'à l'époque, il faut...
Mais c'est ça, on est dans cette guerre Est-Ouest.
Il a cru que pendant un moment, alors ça a tenu pendant quelques années, mais les Américains, après, ont fait pression pour qu'il rentre dans l'OTAS, qui était un peu l'équivalent de l'OTAN, mais en Asie. Là, il n'a pas voulu, il a joué un jeu d'équilibre compliqué et qui a pas pu tenir à la fin, puisque tout a été emporté par la guerre. Mais je voudrais revenir une minute, parce que j'aime bien donner une anecdote. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait le père Ponchot tout à l'heure sur Sihanouk. À propos de ces personnes qui ont été fusillées, qui ont montré au début c'est ce qu'on appelait à l'époque, nous, quand on était jeunes, on appelait ça les actualités. Voilà. Et donc.
Mais nous, on avait les actualités Pathé-Gaumont, là-bas, voilà, l'exécution auprès
Oui, oui, mais c'était dans les actualités. Et j'ai posé cette question parce que, au-delà des Khmers rouges où il y a un enchaînement de l'histoire, bon, ce qui était choquant surtout, c'était pas tellement qu'on fusille des gens, c'était des commandos et tout qui voulaient le tuer. Bon, il fallait bien se défendre. C'est une guerre à mort qui se passait entre la CIA, les Américains, les communistes, il faut le savoir. Mais c'était le fait de les filmer. Et alors, je lui ai posé la question. J'ai dit, mais quand même, Votre Majesté, les filmer, les montrer aux gens, c'est quand même, ça se fait pas. Et alors, moi, je m'attendais à ce qu'ils me répondent, mais c'était pour servir d'exemple, que les autres le fassent pas. Pas du tout. Il m'a dit, mais j'avais vu un film aux États-Unis avec Greta Garbo, sur l'exécution de Mata Hari par les Français dans les fossés de Vincennes. Oui. Et les Français avaient filmé l'exécution. Et on a d'ailleurs encore les films et les photos. Et donc j'ai voulu faire pareil, j'ai voulu faire comme les Français. Voilà ce qu'il m'a répondu, c'est quand même extraordinaire.
C'est assez déroutant.
Ben oui, voilà, c'est assez déroutant. Bon.
C'est le moins qu'on puisse dire, mais il faudrait avoir, comme François Ponchot, vécu au Cambodge pour comprendre peut-être tout ça. Peut-être aussi pour comprendre l'extrême violence de tout ce qui va suivre.
Oui, ouais.
C'est-à-dire que les républicains de Lon Nol qui soutiennent les Américains vont le destituer. Là, on est en 70. Mmh. À partir de là, c'est la guerre civile. Et lui va s'appuyer sur ceux qui sont les ennemis de Lon Nol, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus à gauche, et donc les futurs Khmers rouges, en vérité. Et tout ça se fait dans un climat d'extrême violence, comme toutes les guerres civiles, vous me direz, mais peut-être particulièrement.
Il faut se souvenir que les Khmers sont les Khmers, c'est pas uniquement les Khmers rouges, les Khmers de Lon Nol, les Khmers de Sihanouk, les habitants du Cambodge, la majorité, ce sont des Khmers. Et que les Khmers, c'est une race de valeureux guerriers d'autrefois, et que leur société est une société violente. Par exemple, dans mon dernier livre, je parle que les Khmers rouges faisaient des sacrifices humains. C'est-à-dire, par exemple, dans le barrage de Camping Poué, près de Battambang. Ils ont enterré vivantes deux femmes enceintes pour apaiser les esprits. Et Charles Meyer, qui était conseiller de Sihanouk pendant 18 ans, m'a dit chez lui que Sihanouk également faisait des sacrifices humains avant ce départ en avion. C'est Khmer. Et par exemple, les soldats, aussi bien les soldats de l'ONOL que les soldats de Khmer Rouge, portaient à leur cou un embryon séché qui les défendait des balles. Et souvent, ils faisaient des sacs, comment on appelle, j'arrive plus à trouver le mot en français,
des tatouages
pour éviter éviter d'être blessé. Donc tout ça, on est dans un monde merveilleux, un monde qui nous échappe, enfin, nous
merveilleux
occidentaux.
Merveilleux au sens fantastique.
Oui, moi-même, oui. J'ai vu quand le prince Sihanouk a été destitué en 70, il y avait de grandes manifestations à Kompong Thiam le 29 mars pour le faire revenir. J'ai vu moi-même des gens paisibles prendre une machette et couper la tête de deux députés venant les calmer, leur ouvrir le ventre, leur prendre le foie et le manger sur le marché de Kompong Thiam. Vous voyez, alors tout ça, c'est une autre mentalité qui nous échappe.
Oui, mais c'est bien de le souligner. Votre dernier livre, François Ponchot, s'appelle, puisque vous en parliez, c'est L'impertinent du Cambodge. Ce sont des entretiens avec Dan Kuipers et c'est paru chez Magellan et compagnie. Ça vient de sortir là, il y a quelques semaines.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Extrait de l'album Voix de femmes, les musiciens de la cour de Norodom Sihanouk sur Europe 1 avec Kop Atayeng.
Je suis à la page 274-275 de l'ouvrage de Jean-Marie Cambacérès sur Norodom Sihanouk, le roi insubmersible. Et c'est à ce moment-là que vous rencontrez, on est donc en 1979, que vous le rencontrez pour la première fois. On est à une période extrêmement importante, une période de charnière, puisque le régime des Khmers rouges est encore un souvenir très frais, et le prince Sihanouk est lui-même encore en totale bascule à l'époque. On ne sait pas vers quoi il va pencher.
Oui, c'est en 1979, effectivement, parce que lui a démissionné formellement de sa position de chef d'État en 76, déjà. Bon, après, il a vécu ce qu'on appelle prisonnier des Khmers Rouges, où il y a quand même plusieurs de ses enfants et petits-enfants qui ont été tués par les Khmers Rouges. Les Vietnamiens envahissent le Cambodge, et lui est dans le dernier avion chinois qui part à Pékin. Et dans ce souci qu'on décrivait tout à l'heure de défendre, quand même, il était très, très perturbé. Il dit, je suis à la fois libéré des Khmers Rouges, mais mon pays est envahi par une armée étrangère. Et donc à l'ONU, en 79, il a plaidé pour l'indépendance de son pays contre l'invasion vietnamienne. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, il y a eu une standing ovation à l'ONU. Tout le monde s'est levé, l'a applaudi, etc. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'un pays en envahisse un autre, quel que soit le régime.
Oui, en l'occurrence le Vietnam, mais qui les armées vietnamiennes entrant dans le Kampuchéa démocratique tel qu'il s'était baptisé, sont quand même accueillies en libératrices.
Oui, au début, bien sûr. Et donc, à l'ONU, cette ambivalence aussi, c'est que dès qu'il a fait son discours dans l'ascenseur, il demande l'asile politique aux États-Unis en glissant un billet dans le GI. Bon,
vous voyez,
et alors après, il a dit, moi je ne veux plus travailler avec les Khmers Rouges qui ont à la fois... Et donc, on le rencontre à ce moment-là. À ce moment-là, il est parti. Comme les Chinois faisaient pression sur lui, parce qu'il faut dire aussi qu'il a demandé l'asile politique à la France. Le président Giscard d'Estaing a mis des tas de conditions, donc il n'a pas pu. Bon, finalement, Deng Xiaoping lui a dit « Revenez, je n'ai fait aucune condition pour vous », donc il est retourné. Mais après, les Chinois ont refait pression sur lui pour qu'il retravaille avec les Khmers Rouges. Et il est parti à Pyongyang.
Donc chez Kim Il-sung, là.
Voilà, chez Kim Il-sung, en disant « Là, on ne fera pas pression sur moi », parce qu'il n'avait pas encore décidé. Donc il faisait un peu le tour du monde.
Et c'est là que le président Mitterrand, en très grand secret, avec Gaston Deferre, avec vous d'ailleurs, va le rencontrer.
Oui, absolument. On avait été invité par Deng Xiaoping. Donc on avait un voyage
en Chine.
Après, Kim Il-sung nous avait invités depuis très longtemps et François Mitterrand avait toujours dit non parce que j'avais donné des arguments, c'est loin, on n'a pas le temps. Mais là, on était à Pékin, donc vous voyez pas. Et la troisième raison, c'était que Norodom Sihanouk était là-bas. Donc on est allé voir Norodom Sihanouk, qui lui a expliqué la situation, qui lui a dit que, bon, vu la pression et tout, parce que tout le monde voulait bien l'aider, y compris les Américains. Il faut se rappeler que les Américains, dans la deuxième période, ont maintenu le gouvernement Khmer Rouge à l'ONU et ont refait pression sur l'ASEAN pour ressoutenir Sihanouk dans une alliance avec les Républicains aussi. Et donc François Mitterrand lui a promis que quand les conditions seraient il le soutiendrait pour faire une conférence internationale, rétablir la paix et des élections avec un contingent de l'ONU.
C'était déjà la préfiguration de ce qui arriverait plus tard, 10 ans plus tard, les accords de
Paris.
Ce qu'on a du mal à comprendre, Bruno Carette, c'est que cet homme qui a quand même été le chef de l'État de l'époque du régime des Khmers Rouges n'ait pas été davantage atteint dans son image et dans sa légitimité par les atrocités commises par ce régime dont il était lui-même, dont il se disait victime en même temps.
Je me souviens d'une interview dans les nombreuses images d'archives que j'ai dépouillées pour mes documentaires où Sihanouk, au lendemain de l'invasion vietnamienne, c'était même peut-être une interview de 80, qui date de 82. Et je crois que c'était sur TF1, sans vouloir faire de publicité. 3 ans après que les Vietnamiens aient chassé les Khmers Rouges du pouvoir, le génocide, comme il est appelé au Cambodge, était révélé au monde entier et en masse. Un quart de la population, 1 700 000 personnes. Et Sihanouk répond aux journalistes qu'il n'est pas au courant, qu'il n'est pas sûr qu'il faille charger les Khmers Rouges. Alors il dit je ne veux pas les blanchir, mais en même temps je ne veux pas les accabler sur quelque chose qu'ils n'auraient pas commis, sous-entendu, ce sont peut-être les Vietnamiens. Autrement dit, Sihanouk, avec cette déclaration, épouse tout à fait la défense qui est celle des Khmers Rouges aujourd'hui au tribunal international qui a cambodgien, un caractère international qui est établi à Phnom Penh, c'est-à-dire que ce qui s'est passé au Cambodge, c'est certes regrettable, personne ne conteste, mais c'est pas forcément les Khmers Rouges qui sont responsables de tout. C'est en tout cas ce que disait Sihanouk en 82.
Oui, mais une très grande différence, c'est qu'on est en train de juger des responsables Khmer Rouges qui ont commis des atrocités. Le roi Sihanouk, lui, est à l'époque dans une sorte de palais où il est en résidence surveillée, coupé de tout et n'a pas forcément toutes les informations. On peut imaginer qu'il n'a pas forcément toutes les informations.
Ah oui, tout à fait. Il est simplement sorti de temps en temps avec Khieu Samphan, qui est donc jugé aujourd'hui, qui a été le chef de l'État à la démission de Sihanouk en avril 76, et de temps en temps, Pol Pot demande à Khieu Samphan de promener Sihanouk et ils vont visiter ces grands travaux hydrauliques sur lesquels les Khmers Rouges ont épuisé la population tout entière.
Alors je ne parle pas de tous nos amis d'origine cambodgienne qui écoutent cette émission et que je salue d'ailleurs, il y en a que je connais bien, d'autres évidemment que je ne connais pas. Je parle des Cambodgiens qui sont là-bas sur place, François Ponchot. Est-ce qu'ils établissent une claire distinction et est-ce que pour eux, Sihanouk était bien la victime des Khmers Rouges?
Les opinions sont mélangées. Mais pour revenir tout à l'heure, le soutien de Sihanouk aux Khmers Rouges durant l'invasion vietnamienne, il faut se rappeler que Sihanouk est un patriote et que les Vietnamiens sont les ennemis jurés, détestés, honnis. Et encore, je n'ai pas de mots assez violents pour exprimer cette haine des Cambodgiens face aux Vietnamiens. Donc Sihanouk réagit en Khmer face aux Vietnamiens. Ça dépasse tout entendement.
L'impertinent du Cambodge, des entretiens avec Dan Kuipers chez Magellan et compagnie. Donc c'est l'ouvrage de François Ponchot. De Bruno Carette, on peut voir, comme je l'ai fait hier soir, Khmer Rouge Amer et Kampuchea, Chronique Rouge Amer. Les deux DVD sont disponibles.
Les Chroniques Rouge Amer ont été diffusées sur France 5 et sur la chaîne Histoire. Et j'espère que la chaîne Histoire va également diffuser les Khmer Rouge Amer.
Appel à FTD, donc. Voilà. Et puis, bien sûr, de Jean-Marie Cambacérès, Sihanouk, le roi insubmersible, s'est publié au Cherche Midi.